Monsieur, j'ai un problème de, pardon. Monsieur Delperrier, donc on est ravis de vous avoir. Vous allez nous parler de l'uniforme, mode et éthique de 1815 à 1914. Vous êtes professeur d'histoire en prépa Sciences Po et classe de terminale au lycée Fénelon, dans le 8e. Vous êtes docteur en histoire et vous avez beaucoup écrit de livres et d'articles sur l'histoire militaire du 19e siècle, notamment sur l'histoire du costume militaire. Vous avez aussi développé une activité de conseil sur des sites historiques et touristiques, ainsi que de l'expertise en vente publique. On est ravis de vous avoir.
J'ajouterais juste que j'ai fait de temps en temps du conseil au cinéma, ce qui m'a permis entre autres de mesurer la différence entre le cinéma français et le cinéma anglais sur la rigueur dans la reconstitution. Le cinéma anglais est d'un professionnalisme total à cet égard, alors que souvent le cinéma français, trop souvent, est un peu approximatif. Voilà, je voulais juste compléter.
Je vous en prie.
Bon, ben, vous me voyez ravi de traiter un tel sujet devant vous. L'occasion m'en est quand même très rarement donnée. C'est vraiment la période que je préfère dans l'histoire des uniformes militaires pour tout un tas de raisons que je vais développer. C'est une véritable fête, le 19e siècle. C'est vraiment l'apogée dans l'histoire de l'uniforme militaire à tout point de vue. Le XVIIIe siècle avait été, au fond, la mise au point progressive de tous les codes en matière d'uniforme, la lente émergence d'habitudes, toute une tradition en matière de coupe des uniformes qui s'était peu à peu précisée avec l'influence prussienne de Frédéric II. Tout ça, à partir du Premier Empire, au fond, produit ses résultats et on a un feu d'artifice en matière d'uniforme militaire. Du règne de Napoléon Ier jusqu'à, évidemment, la guerre de 1914-18, qui va marquer, au fond, le naufrage total de toutes les conceptions qu'on avait en matière d'uniforme et des images que l'uniforme dégageait au XIXe siècle. C'est donc véritablement d'une époque classique dans l'histoire des uniformes dont il s'agit. L'époque moderne, ce sera le kaki, le bleu horizon, tout ce qui va dériver des enseignements de la Première Guerre mondiale qui vont être assez durs. Alors au fond, il y a trois raisons principales qui nous font parler de l'apogée dans l'histoire du costume militaire. Il y a d'abord une évidence, c'est qu'on assiste au XIXe siècle à l'émergence des nations. C'est vraiment un siècle où toutes les nations européennes précisent leurs contours. On songe à l'unité allemande, à l'unité italienne. Et les exemples sont légion. En plus, les nations s'affirment en dehors de leur espace européen en fondant des empires coloniaux. C'est vraiment un siècle d'affirmation et d'émergence de la nation. Or, les peuples et les gouvernements sont extrêmement fiers de l'armée, qui est l'un des signes évidents de la création de la nation. La fierté de pouvoir fonder une armée nationale, qu'on va naturellement doter d'un uniforme très reconnaissable et très haut en couleur, avec des formes avantageuses. Tout ça va de pair avec l'émergence des nations. Ça paraît être la première grande évidence. La deuxième idée, j'allais dire, elle est d'ordre psychologique. Les uniformes sont d'autant plus colorés et beaux en un mot que les peuples, au fond, expriment encore ce qu'on pourrait appeler un consentement à la guerre. Un consentement à la guerre limitée, entre guillemets. L'image qu'on se fait de la guerre au XIXe siècle, c'est celle d'une guerre limitée, à la fois dans le temps et dans l'espace, limitée également par les moyens qu'on emploie, par le code d'honneur qu'on respecte encore à la guerre et durant les batailles. On a affaire au concept de guerre limitée, au fond, qui va prendre fin en 14-18 et qui va être remplacé par une guerre totale impliquant complètement les peuples, générateur de nouvelles méthodes de faire la guerre, au fond, beaucoup plus âpres et beaucoup plus sanglants, des moyens nouveaux, au fond, dont le 19e siècle se serait beaucoup moins servi. Au fond, la guerre limitée. Ça me rappelle que le matin du 24 juin 1859, le maréchal Canrobert se retourne vers son état-major et au moment où la bataille de Solferino va commencer, dit à son état-major « Ce sont nos grands jours de fête, goûtons-les bien ». Et ces propos n'ont rien d'incongru à l'époque. Ça exprime un consentement, au fond, quasiment dans toutes les couches de la population, devant la guerre, et une guerre qui reste limitée, qui fait d'autant moins peur qu'elle reste limitée. Alors la troisième raison que je vais développer longuement, là, car on se rapproche vraiment du costume d'encore plus près, Entre parenthèses, l'illustration que j'ai mise en premier nous montre les uniformes de la cavalerie anglaise au début de la guerre de Crimée en 1854. C'est à peu près dans ces uniformes, qui sont plus des grandes tenues, comme vous le voyez, que des tenues de campagne. La distinction, d'ailleurs, au XIXe siècle est encore extrêmement faible. C'est dans des tenues aussi brillantes que la cavalerie anglaise a chargé l'artillerie russe à Balaclava, la fameuse charge de la brigade légère qui a été tournée au moins trois fois au cinéma, et durant laquelle la brigade laissera 400 hommes sur le tapis. Bon. Alors, la troisième et dernière raison à laquelle j'arrive maintenant et que j'aimerais développer plus longuement, c'est ce qu'on pourrait appeler un impératif d'élégance, tant au combat qu'en société. Et ça, ça vaut le coup d'être creusé, cet impératif d'élégance. Il y a d'abord, au fond, ce qu'on pourrait cerner comme étant la démarcation, la frontière entre le civil et le soldat. L'uniforme doit vraiment exprimer une démarcation claire, nette et immédiate entre le civil et le soldat. Alors, il y réussit d'autant mieux que ses couleurs ne sont pas celles du costume civil, que les formes aussi diffèrent. Autrement dit, d'un seul coup d'œil, on sait qu'on a affaire à un militaire. L'État est trop fier de ses soldats et le soldat est trop fier de lui-même pour qu'il y ait la moindre ambiguïté. Il faut qu'il y ait une démarcation profonde entre le civil et le soldat. C'est si vrai d'ailleurs que peu de temps avant 1914, lorsqu'on songera à moderniser l'uniforme et à le rendre moins voyant et plus pratique, bien des gens vont s'élever, car cette démarcation, si on adopte un tant soit peu la commodité du costume du travailleur, on s'éloigne de cet impératif d'élégance qui doit rester de mise pour bien marquer ce que la condition de soldat d'honorable. Cette démarcation, elle est fondamentale. Alors, photo 2, si possible. Merci beaucoup. Oui, donc j'ai choisi une caricature de Draner, qui était vraiment un grand artiste sous Napoléon III et au début de la Troisième République, pour rappeler que dans la démarcation entre civils et soldats, ça n'empêche pas les civils d'être absolument... amoureux du costume militaire, et le costume militaire dans les sociétés civiles est mis absolument à toutes les sauces, et rares sont les services publics qui ne veulent pas à leur tour adopter un uniforme, ça descend jusqu'aux lycéens et collégiens qui sont tous en uniforme. Autrement dit, même chez certains qui, dès l'époque, contestent l'uniforme ou le métier militaire, il y a le souci d'être soi-même en uniforme tellement l'uniforme est populaire. Alors ça passe par des institutions qu'on pourrait décrire comme paramilitaires, pas exactement dans l'armée active, je pense à la garde nationale, où la bourgeoisie, au fond, sert avec fierté et passion. Ce sont des soldats d'opérette qui ne servent que le dimanche et durant les cérémonies, mais quel plaisir de revêtir un uniforme. Toute la société française en particulier, je ne parle même pas des autres sociétés européennes, y est très sensible. Alors cette caricature, elle s'applique très exactement à la garde nationale mobile qui a été fondée en 1868 par le maréchal Niel afin de donner à l'armée française des effectifs plus nombreux et créer au fond une sorte de réserve. Tout cela 2 ans avant la guerre de 1870, c'est pas ça qui empêchera l'armée française de partir en campagne avec 280 000 hommes contre les 700 000 que les États allemands arrivent à rassembler. Et ça ne nous sauvera pas. Mais dans la société, la création de la garde mobile n'est pas passée inaperçue et ça a donné à des centaines de milliers de Français l'occasion de revêtir un uniforme et on voit au fond le côté matamor au fond de ces officiers un peu de surprise, des officiers de hasard qui ont le plaisir de revêtir un uniforme. Donc il y a vraiment la démarcation entre le civil et le soldat. Il y a l'impératif de maintenir l'attrait de la carrière. On est encore dans une période où l'impératif de recrutement pèse lourd. Le service militaire est encore inconnu de la plupart des pays jusqu'à la guerre de 1870. Il faut tout faire pour attirer des volontaires, notamment dans la cavalerie qui exige beaucoup de monde et des gens compétents. Et c'est dans la cavalerie que, comme par hasard, les uniformes sont les plus brillants. Donc là, il y a un impératif technique, j'allais dire, qui est celui d'attirer nombre de volontaires. Une fois de plus, lorsqu'il s'agira de rendre les uniformes plus pratiques et moins voyants, bien des voix vont s'élever pour dire comment on fait pour attirer les volontaires dont on a besoin si on présente désormais des uniformes différents des uniformes anciens. Autrement dit, l'attrait de la carrière peut être un facteur technique qui explique la beauté des uniformes jusque tard dans le 19e siècle. Troisième point, au fond, qui est très aussi typique de l'époque, c'est qu'un bel uniforme, c'est le support d'énormément de valeurs, militaires et sociales. Tout se bouscule. Hein. Dans les valeurs militaires, l'uniforme, c'est un symbole d'honneur, de bravoure, de discipline et d'esprit de corps. Ça fait beaucoup. L'honneur, parce que la beauté de l'uniforme contraint l'individu à mettre ses actes en rapport avec son apparence. Et là, il y aurait aussi des heures à raconter. Les officiers qui restent volontiers debout pendant le combat alors qu'ils font coucher leurs hommes pour éviter qu'ils soient touchés, eux, par honneur, restent debout. Ce qui fait naturellement que ce sont les premiers atteints, d'autant plus que leur uniforme est encore plus brillant que celui de la troupe et attire les coups encore beaucoup plus facilement. Mais l'habitude, elle va durer jusqu'en août 1914 quand même. L'habitude de rester debout au combat, c'est quelque chose qui a eu du mal à disparaître s'agissant des officiers. Il y a l'honneur, la bravoure, discipline et esprit de corps. Savoir si les uniformes sont véritablement uniformes. La discipline part de l'esprit que tout le monde est habillé de la même façon, qu'il y a seulement les grades qui sont matérialisés sur l'uniforme. L'uniforme est un gage de discipline. C'est une pression qu'il crée pour que les réflexes collectifs, au fond, se substituent peu à peu aux réflexes individuels. Et les armées du 19e siècle qui manœuvrent encore en rang serré à la prussienne savent ce que la discipline veut dire. Et l'esprit de corps. Alors là, on peut peut-être passer à la photo suivante. Alors, l'esprit de corps, le voilà. Là, j'ai choisi une planche, au fond, illustrant certains détails d'uniforme de l'armée prussienne peu de temps avant la guerre de 1870. L'esprit de corps qui va, lui, aller un peu à l'encontre de cette discipline collective que je décrivais à l'instant. Elle, au contraire, elle insiste sur les particularismes dont chaque régiment est si fier. Chaque régiment porte avec lui, au fond, une tradition qui commence à être multiséculaire à l'époque, ça fait 2 siècles, et les régiments, naturellement, les traduisent, ces particularismes, par des détails. On voit, par exemple, les plaques de casque à pointe qui diffèrent d'un régiment à l'autre, parfois. La garde prussienne a sa propre plaque que les troupes de la ligne n'ont pas. J'en passe et des meilleurs. Il y a aussi, par exemple, sur une patte d'épaule qu'on distingue au milieu, le monogramme d'un monarque qui est le colonel honoraire du régiment. J'en passe et des meilleurs. La liste est absolument énorme de ces particularismes que chaque pays, évidemment, tient à l'honneur. L'armée française y échappe pas, bien que l'armée prussienne soit vraiment l'une qui lui cultive le plus. J'ajouterais toutes les armées monarchiques, quelles qu'elles soient. L'armée russe, l'armée austro-hongroise, l'armée britannique. L'uniforme allemand est plus austère dans l'ensemble que l'uniforme français. On n'a pas, par exemple, le pantalon rouge qui est beau comme la France du 19e siècle. Il y a une certaine austérité générale, mais qui est compensée par ce qu'on voit sur la planche, c'est-à-dire de multiples détails qui, aux yeux de l'observateur averti, il suffit à identifier un officier d'un homme de troupe, le membre du 3e régiment de grenadiers de Prusse orientale par rapport au 4e régiment de Basse-Saxe. Tout ça se matérialise sur l'uniforme par toute une série de particularismes. Les valeurs sociales, c'est celles d'armée, de patrie et d'Europe. J'insiste pas trop sur armée et patrie, mais l'Europe. L'uniforme, c'est vraiment une création de l'Europe. Le 19e siècle, considérant rapidement qu'ailleurs, il y a la barbarie. Et de fait, les nouveaux pays qui se créent à la remorque de l'Europe à l'époque s'empressent de copier les uniformes de l'Europe. Les États-Unis qui émergent et qui se cherchent encore dans leur identité copient les uniformes français durant la guerre de sécession. Et je ne parle même pas de la cohorte des pays d'Amérique du Sud, auprès desquels la concurrence allemande ou française s'exerce en matière d'uniforme. L'armée japonaise sera l'une des dernières à émerger parmi les très grandes armées de l'époque, à partir de l'ère Meiji en 1867, et va copier, au fond, les uniformes tant allemands que français ou autrichiens en prenant certaines caractéristiques, d'où un uniforme japonais un peu composite, qui est tout à fait typique, au fond, du désir de Japon, du Japon à ne prendre de chaque nation que ce qu'il trouve le meilleur et à garder sa propre culture. Voilà. Alors, quatrième point qui se rattache à l'impératif d'élégance, c'est la dictature de la mode, évidemment, avec ses tendances générales et des particularismes nationaux. La tendance générale, alors, voilà, photo suivante. La tendance générale, c'est le remplacement de l'habit par la tunique. Ça, c'est vraiment l'évolution typique du 19e siècle. L'habit à la française, qui était lui-même hérité de l'habit prussien de Frédéric II, gagne toute l'Europe, c'est-à-dire un habit coupé extrêmement court à la taille, mais comportant, comme on le voit, des basques à l'arrière, très collant, extrêmement incommode. Au fond, c'est comme si on partait en guerre en grande tenue. C'est d'ailleurs ce qui a lieu souvent sous l'Empire, où les soldats reçoivent l'ordre de sortir gants blancs et plumets lorsqu'ils se battent. Hein. On en est là. Autrement dit, là, l'impératif d'élégance prime à fond. Alors le 19e siècle, qui se préoccupe grandement de la science et de la médecine, finit par faire émerger le facteur d'hygiène et de commodité. Ça, ce sont les mots que le 19e siècle va avoir à la bouche à partir du milieu des années 1840-50. Et l'uniforme va en tenir compte. On va passer de l'habit à la tunique. Un vêtement d'ailleurs qui politiquement sent un peu le soufre parce qu'il est réputé être prôné par des mouvements libertaires de type socialiste. La politique se greffe d'ailleurs sur l'uniforme. Je n'aurai pas le temps de développer tout cela, mais c'est d'une richesse phénoménale. Le thème de l'uniforme militaire, qu'il me soit permis de le souligner, c'est un thème d'une richesse étonnante. Ça part dans toutes les directions et c'est absolument inouï ce qu'on découvre en grattant le sujet. Autrement dit, là, vous avez sous les yeux un fantassin tel qu'il se présente en France jusqu'en 1845. Et il y aura cette rupture du passage à la tunique, de la suppression de ces courroies en buffle qu'on porte de chaque côté de la poitrine et au profit du ceinturon. Là, ça va complètement changer la silhouette du soldat jusqu'en 1914. Photographie suivante, s'il vous plaît. Voilà. Même si c'est la Prusse qui a adopté la tunique avant la France à partir de 1842, alors que la France le fait en 1845, il y a l'enseignement des guerres d'Algérie, de la campagne d'Algérie à partir de 1830, qui en France va être majeur, qui va marquer vraiment l'irruption des préoccupations de commodité, de recherche de quelque chose de plus pratique. La fameuse capote à double rangée de boutons va devenir le vêtement de guerre de l'infanterie française jusqu'en 1940. Capote que l'on trouve utile en tout temps et en toute saison et qui se révèle naturellement, comme bien l'on pense, trop froide en hiver et trop chaude en été. Mais le 19e siècle va considérer le contraire, c'est-à-dire que c'est un vêtement qui suffit à tout. C'est aussi l'époque où le pantalon rouge s'installe peu à peu dans toute l'armée française. Pantalon rouge adopté pour des raisons économiques, hein, pour nous libérer des importations d'indigo venant des Indes britanniques et qui coûtaient extrêmement cher. Là, par contre, la garance jusqu'en 1882 est une plante cultivée en France qui nous met en situation d'indépendance par rapport à la Grande-Bretagne. Alors, photo suivante. Voilà. À part cette tendance générale, au fond, il y a aussi des modes transnationales. L'une des plus belles au XIXe siècle, dont le Premier Empire déjà avait sonné le début, c'est la mode à la hussarde. C'est-à-dire la similitude, au fond, des vêtements de la cavalerie légère, quels que soient les pays, et cette popularité sidérante des vêtements à la hussarde, c'est-à-dire richement brodés de brandebourgs sur la poitrine, des vêtements relativement courts, là aussi collants, de couleurs extraordinaires, avec un tressage qui est d'un luxe absolument étonnant, qui permet aux officiers naturellement de multiplier le luxe de la troupe par 10, sous forme de tresse en or. Tout ça ruine les officiers qui payent leurs uniformes de leurs deniers. C'est un an de salaire qui passe pour fabriquer une grande tenue. Le futur général de Saunis, qui sert au 7e Hussard en Algérie vers 1853, écrit à sa femme en disant « Je me suis ruiné pour l'année ». Et il suffit de traduire en euros les sommes en francs de l'époque pour être fixé. Là, on a sous les yeux un vétéran des campagnes de Napoléon Ier, ancien chasseur à cheval de la garde, qui est photographié sous Napoléon III vers 1858. Mais cette mode va se prolonger jusqu'en 1914, comme le montre la photo suivante, si je peux la voir. Alors, voilà. Là, on a sous les yeux des officiers de hussards autrichiens vers 1908-1910, à quelques années de 14-18. Cette mode à la hussarde est toujours là, et dans tous les pays. La France, par souci de simplicité, a supprimé les tresses, mais l'esprit y est toujours. C'est vraiment général, quels que soient les pays. Seules les coiffures changent, ça peut être le shako qu'on observe ici, cette coiffure qui ressemble à un képi rigide, ou alors le callback ou le talpak, c'est-à-dire des coiffures en fourrure telles qu'on l'a observé sur le cliché précédent. Mais cette popularité, au fond, n'a pas de frontières. Et là, la tenue à la hussarde ne tient pas compte, au fond, des particularismes nationaux. Elle est absolument transnationale. Alors, dernier point, c'est de savoir si, malgré ces tendances européennes, il n'y a pas ce qu'on peut appeler des uniformes nationaux. Alors là, si vous pouviez me passer la suivante. Il y a le fait, au fond, que chaque nation tient à ses particularismes aussi, qui la rendent immédiatement identifiable. Je pense au rôle de l'habit rouge pour identifier l'armée britannique jusqu'aux premières tentatives d'introduire la tenue kaki dans les colonies britanniques à la fin du 19e siècle. Il y a évidemment le képi et le pantalon rouge en France qui sont considérés par l'opinion comme des effets nationaux qu'aucune raison ne saurait modifier. Il y a le casque en pointe en Allemagne qui quand même va durer de 1842 à 1916. Il y a au fond dans chaque pays ce qu'on pourrait appeler des effets purement nationaux qui, envers et contre toutes les tentatives de réforme, sont maintenus en service car on juge qu'ils sont absolument intangibles. C'est vraiment extraordinaire comme le 19e siècle. Alors, photo suivante. Non, pardon. Là, je vous dis simplement de quoi il s'agit. En 1830-31, au moment du débarquement en Algérie, il n'y a pas 6 mois qui s'écoulent avant que les effets réglementaires ne soient complètement modifiés et qu'on invente 36 types de casquettes différentes destinées à remplacer le shako qui est trop lourd et insupportable sous le soleil. Et c'est la naissance, au fond, de ce qui va être le képi, notre coiffure nationale à partir des années 1830. La coiffure qui va être retenue, au fond, pour le premier modèle de casquette, si mes souvenirs sont bons, c'est la coiffure qu'on distingue en numéro 3 en haut à droite. Et c'est à partir de cette coiffure que les troupes elles-mêmes, au fond, ont fabriqué, que peu à peu, le képi va s'implanter comme coiffure nationale française jusqu'à nos jours, puisque toutes les tentatives depuis 40 ans pour remplacer le képi par la casquette se sont immanquablement soldées par des échecs. Alors, avant-dernière photo. Voilà, le résultat, c'est qu'on a cette photo extraordinaire, prise le 1er mai 1907 sur la place de la République. Ce sont les premières photos en couleur du monde qu'on doit à des Français. Ce sont les autochromes. Le résultat, c'est que l'infanterie française se présente toujours en août 1914 avec la tenue qu'à peu de choses près elle portait 50 ans avant, et avec notamment donc le képi rouge, à peine masqué par une toile bleue au moment du départ, et puis surtout ce pantalon rouge, que nous n'avons pourtant plus aucune raison de conserver en 1914, puisque depuis 1982, la garance a été remplacée par l'aniline, qui est un produit synthétique rouge dérivé de la houille, et dont les Allemands ont le monopole. On arrive à constater le paradoxe suivant, que la France garde le pantalon rouge, qui est un des symboles, au fond, de son opposition à l'Allemagne viscérale depuis 1870, et pantalon rouge teint avec un produit qu'on importe d'Allemagne. Voilà, on arrive à ce résultat extraordinaire. Alors, en guise de conclusion, la dernière photo, peut-être, que je trouve tout à fait extraordinaire, qu'on doit à Tournassou, avec les procédés, encore une fois, de l'autochrome inventés par les frères Lumière vers 1906. Il s'agit d'un régiment de chasseurs à cheval qui est photographié dans la banlieue de Lyon en 1912. Et on voit, au fond, le 19e siècle se maintenir jusqu'en 1914, malgré le fait que dans toutes les autres puissances voisines de la France, on ait déjà modifié les uniformes durant les 10 ans qui précèdent. La France est un cas unique. au fond, l'opinion tellement attachée à l'uniforme traditionnel français s'est refusée dans ses profondeurs à ce qu'il soit modifié. Toutes les autres puissances, à partir de 1902, adoptent des tenues vert de gris, kaki. La France est absolument la seule à ne pas l'avoir fait parmi le concert des grandes puissances. Si je rajoute la Belgique, ça fait deux. Bon. Or, pourquoi ne le fait-elle pas, encore une fois? C'est parce qu'on est en démocratie. Les députés ne vont pas voter 25 millions de francs au budget de la défense pour modifier l'uniforme, alors qu'ils sont les gardiens d'une gestion rigoureuse des deniers de la République. Et quand l'opinion siffle les nouveaux uniformes qui tentent d'être introduits lors des défilés, les uniformes gris-bleu ou verdâtre qu'on tente d'introduire, lorsque l'opinion les siffle, le message est reçu par les députés qui s'opposent dès lors à ce que les tenues traditionnelles soient modifiées au profit d'uniformes modernes. Voilà pourquoi la France va rester fidèle envers et contre tout à ces tenues traditionnelles qui seront modifiées dans les pires conditions à partir de 14. Au profit de la tenue Bleu Horizon. Voilà, je vous remercie.
Merci. J'espère avoir pas trop débordé. Non, c'est parfait. On va prendre les questions maintenant, si ça vous...
Comme vous voulez.
Est-ce qu'il y a des couleurs qui ne sont jamais adoptées ? Ou même, sinon, des uniformes qui sont refusés, mais par les soldats, quand ils les présentent ? C'est-à-dire qu'un soldat doit obéir, mais les officiers, est-ce qu'il y a des choses qui disent « Ah non, jamais ça ».
Ah, ils savent se faire entendre, absolument. Quand un uniforme leur déplaît pour des strictes questions de mode, ça, c'est aussi un point absolument intéressant. Je pense à la période 1875-1892. En 1875, les officiers sont en tunique, un vêtement relativement simple, collant, mais ils finissent par trouver, par un commun accord, par imprégnation des idées en vogue, que les tenues à la hussarde sont plus saillantes. Et en 1882, le général Billot, qui adore tout ce qui est hussard, donne finalement les brandebourgs à tous les officiers des troupes à pied, même en dehors de la cavalerie. Ce qui fait que la plupart des officiers français portent des vêtements à la hussarde jusqu'en 1892. 10 ans plus tard, ça se retourne. Ce qui avait été considéré comme à la mode et vraiment attirant 10 ans plus tôt, paraît ringard et dépassé, et ils sont unanimes à réclamer le retour à la tunique. C'est la versatilité française qui fait rire jusqu'à l'étranger. En Allemagne, les Français sont réputés un peuple versatile et léger, qui change d'opinion comme il respire. Et de fait, la fréquence des...
Au changement d'uniforme jusqu'en 14, et en fait, il faut le changer d'urgence... entre 14 et 15. L'opposition au casque, c'était la même raison ? Ils n'ont pas eu de casque jusqu'en 1915 ?
Alors, là aussi, on trouve la fantaisie française. Des milliers d'inventeurs ont proposé des milliers de casques au ministère de 1850 à 1910. Alors évidemment, il y a un très petit nombre qui surnage, à ma connaissance, il n'y en a pas un qui a été pris en compte et mis à l'essai. Les seuls modèles mis à l'essai sous forme de casques coloniaux en liège ou autres sont des modèles d'origine ministérielle. Et j'allais dire, par souci d'esthétique ou à cause de considérations pratiques, ils sont tous refusés sans arrêt. Le casque colonial, parce que vous ne pouvez pas tirer couché, le casque se soulève à cause du sac dans le dos qui fait soulever la nuquière. Enfin bref, une collection de remarques qui descendent à chaque fois les coiffures proposées. Autant la cavalerie s'est convertie au casque peu à peu, autant dans l'infanterie, ça n'a jamais été possible. Voilà. Pour des questions diverses et variées. Mais notamment parce que c'est laid. Voilà. Ces conditions, ces considérations d'esthétique pèsent encore très très lourd jusqu'en 1914. C'est beau ou c'est laid.
Alors sur ces considérations d'esthétique, quelle liberté est laissée par exemple à un lieutenant ou un sous-lieutenant de la guerre de 14 d'adopter ou partiellement l'uniforme qui lui est proposé? Est-ce qu'il peut le modifier lui-même?
Ah, très, très vaste question aussi. C'est la latitude qui est laissée aux officiers de modifier leurs uniformes. On se doute que d'un pays à l'autre, suivant les tempéraments nationaux, la réponse va être différente. En Allemagne, où au fond, les officiers ont une rigueur extrême, tout domaine confondu, on ne se permettrait jamais de modifier la tenue que le règlement vous donne. Par contre, en France, où c'est l'inverse, là, les officiers passent leur temps à personnaliser leur tenue, surtout lorsqu'on est en guerre. Alors là, on atteint des sommets. foulards, accessoires interdits par le règlement. Une partie de la paperasse générée par le ministère de la Guerre consiste à pointer du doigt des irrégularités réglementaires commises par les officiers. Quand le général Galifet était ministre de la Guerre en 1900, et il a pondu lui-même une circulaire interdisant les képis coupés différemment du règlement, alors que lui était le premier à en porter. Et voilà, il n'y a rien à faire. L'officier a une latitude de fait. Mais en France, plus qu'ailleurs, encore une fois, je relève de telles distorsions ni en Angleterre, ni en Autriche-Hongrie, et encore moins en Allemagne. C'est une fois de plus le tempérament français qui se fait sentir. C'est ça la richesse du sujet des uniformes, c'est que ça révèle énormément de choses, y compris sur les finesses des tempéraments nationaux. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans des stéréotypes, évidemment, quand on commence à les creuser, mais ça cerne des choses extraordinaires de ce type.
Un petit peu donc les formes en France. Oui. Est-ce qu'on pouvait changer les couleurs ? C'est-à-dire, je pense à quelque chose de précis. Pendant la guerre 14, on voit des bleus différents.
Alors, à partir de 1914-18, on a changé quand même radicalement les couleurs. Alors, qu'il y ait des bleus différents, ça vient de la teinte et de l'usure du drap.
Oui, par exemple, quand on trouve les officiers, non pas, c'est pas tout à fait souvent vu qu'ils faisaient faire. C'est pas tout
Alors,
à fait.
Là, je pourrais en parler pendant deux heures. Les étapes de changement des uniformes sont extrêmement minutieuses d'août 14 à la fin de 1915. Et les premiers bleus sont des griffères bleutés, c'est-à-dire des draps bleus foncés mélangés de blanc, qui ont encore une teinte très soutenue. Or, les officiers portent des vareuses en draps griffères bleutés, alors même que la troupe a déjà reçu le bleu horizon. D'où des variantes, mais tout ça est extrêmement minutieux, et souvent le cinéma français, justement, fait absolument n'importe quoi dès qu'il s'agit de représenter 14-18, alors que tout ça s'explique de manière parfaitement rationnelle. Il y a plusieurs nuances de bleu en service. Voilà, celle qui domine, c'est d'abord le gris fer bleuté, qui est celle de la capote de troupe et de la vareuse d'officier. Mais quand on change la capote de troupe en une capote bleu horizon beaucoup plus claire, les officiers sont restés pendant 8 à 10 mois encore en gris fer bleuté.
Mais vous disiez que se faisait faire son costume, mais
la belle jardinière, par exemple.
D'accord, mais alors on se fournissait au niveau costume, au niveau tissu, on se fournissait où ?
Ah ben le tailleur chez qui s'adresse l'officier.
Ah oui, donc les bleus pouvaient être très variables.
Ah non, le tailleur a évidemment l'obligation de se conformer au règlement.
D'accord.
Oui. Parce qu'il sait que le client n'achètera pas son produit s'il est pas trop différent. Encore que, et là nous retombons dans ce que je viens de dire sur la France. Je serais là aussi intarissable sur les différences de couleurs dues à la mode, avec un bleu qui tire plus, un rouge qui tire plus vers le jaune ou qui tire plus vers le violet. Oh là là, d'un tailleur à l'autre, chacun peut essayer de lancer une mode. Tout ça, c'est d'une subtilité qui est très française. Autre question, je crois qu'il y avait deux personnes qui demandaient la...
Ça complète un petit peu la question précédente sur le mode de production.
Oui.
Donc les troupes, elles, par contre, recevaient leur... je parle des troupes françaises.
Oui.
Recevaient leur costume. Il était fourni donc officiellement par l'armée française, qui elle-même produisait, enfin, je ne sais pas comment le dire, est-ce qu'il y avait une usine, plusieurs usines bien sûr, qui étaient sous contrôle de l'État pour la fabrication ? Est-ce qu'il y avait une centralisation de production,
voilà, on peut le dire peut-être un peu autrement ? C'est un pan énorme de la question aussi, c'est le mode de production des uniformes, absolument. La règle classique jusque dans les années 1882-84, c'est la règle voulant que les ateliers régimentaires, c'est-à-dire des ouvriers tailleurs spécialisés, produisent les uniformes eux-mêmes. Alors l'État se contente de leur livrer par des marchés avec des adjudications, des accessoires tels que les boutons ou autres qui vont concourir à la confection finale de l'uniforme en atelier régimentaire, mais ça se fait au niveau régimentaire. Ça absorbe donc des dizaines de milliers d'hommes, et surtout lorsqu'on passera au service militaire obligatoire, c'est un système qui apparaîtra non productif. Il s'agira d'habiller potentiellement 3 500 000 hommes et non plus 200 000 comme du temps de Napoléon III. Et là, on va passer au fond au secteur privé. Et ce sont des adjudicataires dans chaque région militaire qui vont être adjudicataires des marchés de A à Z. Et là, ça passe au système par adjudication. Et c'est la grande époque des fabricants d'uniformes en gros au désespoir des esthètes, je dirais, hein, qui désormais constatent que les uniformes sont faits à la grosse, hein, comme disent les écrivains de l'époque. C'est-à-dire, on perd l'élégance et le fini que l'atelier régimentaire apportait encore à la confection des tenues. Quand on lit la presse vers 1890, des journalistes disent « l'armée française est la plus mal habillée du monde ». Dans la rubrique, tout est relatif. Monsieur, oui.
Oui, c'était juste pour revenir à la question de la marge de manœuvre des officiers français. N'y a-t-il pas un phénomène sur lequel plus l'officier est gradé et plus il est loin de la métropole, plus il fait n'importe quoi ?
Ah,
où il peut faire n'importe quoi.
Je ne pousserai pas jusque-là. Là, vous additionnez un certain nombre un certain nombre de paramètres, c'est moins simple. C'est certain, le théâtre d'opération coloniale pousse à prendre ses libertés vis-à-vis du règlement, mais là, l'exigence pratique et hygiénique domine. Là, c'est pas tellement les couleurs qu'on va choisir de diversifier, mais c'est les matières. Autrement dit, on va viser à des tissus extrêmement légers, et le règlement finit d'ailleurs très vite par en tenir compte et allège les tenues et les rend d'une couleur peu voyante extrêmement vite. Les colonies sont en avance sur la métropole dans la réforme de l'Union uniforme, qui est d'ores et déjà kaki à peu près partout vers 1900, alors qu'en métropole, les tenues sont encore colorées comme celles que j'ai montrées. Donc, autrement dit, les officiers n'exercent pas une latitude dans le sens d'une fantaisie débridée sur les couleurs ou accessoires de la tenue. C'est au contraire pour s'alléger et pour rendre de la tenue au maximum pratique, voire parfois ne pas en avoir du tout. Voilà, c'est le résultat des colonies. Mais en métropole, plus on est gradé, la question se pose de savoir si aussi, plus on prend ses distances par rapport au règlement. Pas vraiment. Les sous-lieutenants sont parfois au bas de la hiérarchie des officiers, ceux qui ont la plus grande fantaisie. Le colonel passant son temps à leur indiquer qu'il faut revenir dans le droit chemin. Plus on monte dans la hiérarchie et plus les officiers supérieurs vont être respectueux quand même du règlement. Jusqu'à un certain point. Voilà. La mode du képi à la saumure, extrêmement évasée au sommet, par exemple, atteint tout le monde et les généraux sont les premiers à porter des coiffures que le règlement ne décrit pas.
Mais est-ce que, en complément, dans certaines armées étrangères, je pense notamment à l'armée anglaise, où finalement les traditions régimentaires se sont maintenues et pour certaines se maintiennent encore aujourd'hui, est-ce que la tradition régimentaire et l'esprit de corps, qui crée déjà une marge de liberté à défendre, n'en vient pas à prendre le pas sur les libertés individuelles par rapport à la règle générale de l'uniforme ?
Oui, je serais assez tenté de vous suivre. Il y a la pression du groupe et le respect de la tradition qui sont très fortes dans l'armée anglaise. Et là, effectivement, je vous suivrai assez. On n'est pas dans le domaine de la liberté individuelle, on est dans le respect de la tradition et l'esprit de corps. On le voit très bien d'ailleurs dans le film de Tony Richardson sur la charge de la brigade légère qu'il avait tourné en 1969. On voit cette pression sidérante du corps des officiers et ce qu'ils représentent, ce qu'on peut se permettre de faire, en particulier la moralité, les mœurs. Il y a une pression qu'on ne connaît pas du tout dans l'armée française, là-dessus dans l'armée britannique. Donc je vous suis complètement. La liberté individuelle s'exerce relativement peu, chaque officier ayant à cœur de faire comme son voisin dans les régiments de Sa Majesté.
Mais différemment du régiment d'à côté, très souvent aussi.
Ah oui, c'est différemment du régiment d'à côté.
Je connaissais
Une famille, chaque régiment. Oui, je vous suis aussi là-dessus.
Je connaissais notamment un ancien officier anglais dont le régiment avait traditionnellement des chaussures marron, et tout le régiment prenait un malin plaisir à mettre des chaussures marron.
La couleur de la cravate.
Pour se faire arrêter par les bobbies, et que les bobbies soient obligés de vérifier à chaque fois qu'ils avaient le droit, eux, de porter des chaussures.
Voilà, c'est beau comme l'armée anglaise, absolument. C'est une merveille.
C'est merveilleux.
Et tout ça survit jusqu'à nos jours. Ouais. Ah oui, c'est phénoménal. Que de choses avons-nous perdu, nous.
Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non ? Moi, j'aurais juste une question sur... Quand vous travaillez, depuis que vous travaillez sur les uniformes, vous avez des archives matérielles... Vous avez une collection, vous avez constitué...
À tout compte. On a la chance d'être dans une des plus grosses bureaucraties de la planète. La France est une bureaucratie extraordinaire, ce qui se traduit par des archives extrêmement riches. La Prusse, qui est relativement économe dans tout ce qu'elle fait au XIXe siècle, laisse des traces infimes, des changements d'uniforme. Je suis en train d'étudier l'armée prussienne en 1870. J'ai toutes les peines du monde à trouver des sources fiables, écrites, qui puissent m'aider à dater des changements d'uniforme précis, alors que pour l'armée française, on a le journal militaire officiel, qui est l'équivalent du code du travail actuel en 800 pages, comparé au code du travail suisse en 60. Bon, voilà, c'est une bureaucratie génératrice d'une paperasse extraordinaire, ce qui fait qu'on n'a pas de mal quand même à travailler dans les archives. Quand on commence à gratter, c'est plus dur. Quand on voit quand on commence à se demander ce qui est effectivement porté en campagne par rapport à ce que dit le règlement, alors là, ça devient nettement plus costaud et plus riche dans la recherche, mais on y arrive. Alors, on a la chance aussi d'avoir encore des collections qui sont les plus riches du monde. Je pense au musée de l'Empérite, Salon de Provence, qui est l'annexe du musée de l'armée, qui est relativement peu connu en France. C'est la collection d'uniformes la plus belle du monde. Bien des pays étrangers sont effarés du peu de cas qu'on en fait. Depuis les réformes introduisant la nouvelle muséographie au musée de l'armée, tout ça est présenté avec des critères absolument curieux. On n'a plus rien à se mettre sous la dent lorsqu'on est amateur, lorsqu'on visite. Il y a 10 tenues qui se battent en duel là où on en présentait 80 auparavant, alors qu'on a les plus belles collections du monde. Je ne parle même pas du patrimoine privé. Quand j'ai fait un livre sur la garde impériale de Napoléon III, j'ai été de surprise en surprise et j'ai pu illustrer le livre sans problème, tout corps confondu, parce qu'il y avait 50 collections splendides en France sur le thème. On a énormément de chance par rapport à l'étranger.
Bon, ben merci beaucoup. Merci infiniment de votre communication.